Interview.
1/10 pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 sur Luc Andiwa. L'émission est également mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Daniel Rassa. Bonjour.
Bonjour.
Daniel Rassa, vous êtes ici pour nous faire part des journées européennes en santé qui vont avoir lieu du 16 au 20 mai de cette année. Et ça se déroulera principalement au centre hospitalier de Die.
C'est tout à fait ça. Ouais.
Alors, peut-on expliquer d'ailleurs ce que l'on pourra trouver lors de ces dates à cet hôpital dans le cadre de ces journées européennes en santé ?
Oui, voilà. Alors, si vous permettez, je vais juste faire un petit historique pour les présenter, ces journées. Alors, moi, je suis là en tant que représentant des usagers. On dit plus familièrement RU dans le milieu hospitalier. Donc, les représentants des usagers, en fait, il y en a 4 dans chaque établissement en France, qu'ils soient publics ou privés. Il y a 2 titulaires et 2 suppléants. Ils sont nommés par le directeur de l'ARS régionale et sur proposition d'associations qui sont agréées par le ministère de la Santé. Donc moi, par exemple, je suis présenté par l'association l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. J'ai 2 collègues qui sont présentés par Famille Rurale, par l'Union LUDAF, quoi. Donc voilà, il y a des représentants qui sont mandatés par la Ligue contre le cancer, par toutes les associations agréées. Voilà.
Donc il y avait cette nécessité aux yeux de leur créateur de ce statut de voilà. Représentant des usagers. Ça date depuis les années 80, je vois.
Oui.
Qu'est-ce qui était impossible à l'époque, justement, pour mettre en évidence les droits de l'usager de l'hôpital, du centre hospitalier ?
Voilà. Alors, en fait... les journées européennes, c'est chaque année, mais cette année, elles ont un sens un peu plus particulier, puisque c'est aussi le 20e anniversaire de la loi Kouchner. Et cette loi Kouchner, c'est elle qui a déclenché, en fait, ce qu'on appelle en ce moment la démocratie sanitaire. Donc la démocratie sanitaire, c'est de mettre le patient au centre des soins. Et pour cela, il est aidé par, il peut être aidé par les représentants des usagers. Donc ces représentants des usagers, en fait, ils apparaissent en 95 avec les ordonnances Juppé. C'est à ce moment-là qu'on parle de représentants des usagers. À cette époque-là, ils font partie de ce qu'on appelle la commission de conciliation. Et puis, bon, on ne va pas remonter. Justement, je vous le dirai après, vous pourrez suivre tous les événements pendant ces journées à l'hôpital. Ensuite, il y a eu les chartes Simone Veil en 74. Et en fait, ce qui a vraiment déclenché le besoin de représentants des usagers et de représentation, c'est ce qu'on appelle les crises sanitaires de 1980. La crise du sida, le sang contaminé. Les gens se sont sentis un peu démunis parce que ils n'arrivaient pas à se faire entendre. Et donc, du coup, il y a eu des associations qui se sont créées. Il y a eu une forte demande de reconnaissance du droit des usagers, des patients. Ça a entraîné des états généraux de la santé en 98 et 99, et pour aboutir à la loi Kouchner le 4 mars 2002. C'est vraiment la loi qui a mis en valeur et donné des droits aux malades et à la qualité la recherche de qualité dans le système de santé.
Alors, un représentant des usagers est bénévole.
Tout à fait.
Et comment se renouvellent justement ces personnes au sein d'une commission ?
Alors, nous sommes nommés pour 3 ans. Et donc là, fin 2022, il y aura renouvellement. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, des associations agréées en santé proposent des noms. Et ensuite, c'est le directeur de l'ARS avec le directeur de l'hôpital ou du centre hospitalier concerné qui donne un avis. Et on est nommé. Ensuite, en tant que représentant des usagers, c'est mon cas d'ailleurs, on peut être présent au conseil de surveillance de l'hôpital. Dans ce cas-là, c'est le préfet qui nous nomme sur proposition du directeur de l'ARS. Donc pour revenir à la loi Kouchner, par exemple, qu'est-ce que ça a changé ? Eh bien, par exemple, un représentant des usagers peut être président de la commission des usagers. C'est mon cas à dit, c'est le cas dans de nombreux établissements. Et les représentants des usagers peuvent être aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital. Habituellement, c'était le maire de la ville, donc on n'a pas voulu déroger à la tradition Adi, et donc madame le maire est présidente et moi je suis vice-président. Voilà.
Alors, quels sont les moyens d'action d'un représentant des usagers au sein d'un centre hospitalier, hormis les commissions ?
Alors, justement, et Adi, on va dire qu'on est un bon exemple. L'établissement de Die fait partie du groupement hospitalier, du groupement de territoire avec Valence, avec Cray, avec Romans. Et nous, à Die, nous avons d'abord de très bonnes relations avec la direction. Et les moyens qui sont mis à notre disposition, c'est par exemple une maison des usagers, c'est-à-dire un local où nous recevons des associations, où nous recevons les patients, où nous recevons les familles pour les conseiller, pour les écouter. Et ça a été très utile pendant le confinement, par exemple, parce que les familles qui ne pouvaient plus rendre visite à aux membres de leur famille, ils s'adressaient à nous pour savoir comment on pouvait arranger les choses, si on peut dire ça. Nous participons à toutes les instances du centre hospitalier, c'est-à-dire la commission des menus, par exemple, la commission de lutte contre les maladies nosocomiales. Depuis le 1er avril de l'année passée, la possibilité a été donnée d'intégrer un représentant des usagers au directoire, c'est-à-dire l'instance qui gère, et ça a été fait à Die, puisque j'ai été nommé récemment. Donc, nous avons beaucoup de moyens, et nous avons le secrétariat qui nous aide, nous sommes constamment en relation avec l'ingénieur chargé de la qualité. Et nous passons dans les services, nous rencontrons les médecins, voilà. Et évidemment, je dois avouer qu'à Die, on est privilégié parce que ce soit un petit établissement comme Die ou un CHU comme à Grenoble, mettons, il n'y a que 4 représentants des usagers. Donc 4 à Die. Nous, c'est confortable, on fait beaucoup de choses. Et on est en relation souvent avec des collègues qui, dans un grand établissement, ils font ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas toujours facile.
Vous-même, Daniel, vous êtes membre donc de France Asso Santé, hein, qui justement porte ce droit des usagers voilà. De l'hôpital. Je voulais savoir, vous êtes, vous, actif dans ce domaine depuis combien de temps ? Et ma question suivante était, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus en plus de travail, justement, vis-à-vis de la protection des usagers à l'heure actuelle ?
Alors, moi, ça va être mon deuxième mandat. Bon, j'ai toujours été dans le monde associatif, dans le monde syndical. Donc, ça m'a paru normal de continuer. Voilà, il n'y a pas de rupture ni de nouveauté. En 2016, quand la loi de rénovation en santé a paru et qu'elle a donné beaucoup plus de droits aux représentants des usagers, puisque, par exemple, là, on l'a fait cette semaine, on doit valider le rapport d'activité de l'établissement. Et donc, si les représentants ne le valident pas, il faut qu'il y ait un rapport à l'ARS. Donc, voilà. Alors, depuis en 2016, quand on est allé dans les services, qu'on a rencontré les personnels, et les médecins en particulier, ils se demandaient ce qu'on venait faire là. Est-ce qu'on était un contrôleur ? Est-ce qu'on était... Et puis petit à petit, tout le monde a compris que non, pas du tout. On était là pour aider. Puisque notre rôle, c'est à la fois un représentant des usagers. Il est là pour défendre les droits des usagers, les aider justement à défendre leurs droits. Mais il est là aussi pour l'amélioration de la qualité des soins. Et là, dans ce domaine-là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. On a obtenu des climatiseurs pour l'EHPAD. On a... Voilà. Donc, on intervient. Et par exemple, voilà un exemple concret. Quand il y avait le confinement et que les visites ont repris, mais sous certaines conditions, donc on nous a demandé notre avis. Comment installer des salles avec des plexiglas et tout ça. Et nous-mêmes, nous avons testé en jouant un peu un jeu de rôle, comme si on était des visiteurs. Voilà.
D'ailleurs, pour être au fait des dernières technologies ou confort qu'on puisse trouver dans un centre hospitalier, comment êtes-vous au fait de ces nouveautés ? Est-ce que vous êtes à la recherche ou alors est-ce qu'on vous propose aussi ces nouvelles technologies à votre connaissance ?
Alors, il y a les deux. On recherche, nous, pas mal. Mais par le biais de France Asso Santé, nous avons beaucoup, beaucoup de formations qui nous sont proposées sur le fonctionnement des institutions, sur l'utilisation des nouvelles méthodes. Enfin, beaucoup de... Et c'est toujours très, très intéressant. Et d'ailleurs, nous, on a fait le bilan. Pour l'an passé, on a participé à 13 visioconférences ou réunions, donc, ce qui est pas mal.
Alors, donc, à partir du 17 mai, donc, chaque après-midi, de 13h30 à 16h30, vous accueillez le public. Et ensuite, vous êtes là aussi pour répondre à leurs questions. Et comment se déroulera un après-midi
Voilà, alors... À partir de 13h30, donc, les représentants des usagers seront là. C'est dans la salle Jeanne d'Arc à l'hôpital. Et donc, on a prévu une exposition avec donc, l'historique, l'évolution des droits, et puis des documents pour savoir comment désigner sa personne de confiance, comment rédiger ses directives anticipées, enfin voilà, tout ce qui peut intéresser l'usager. Donc nous serons là pour répondre aux questions. Et on est parti sur l'idée, on a établi un petit questionnaire, les gens s'en serviront ou pas, comme ils veulent, mais ça peut être un guide parce qu'en fait, toutes les réponses aux questions posées sont sur les panneaux de l'exposition. Et en même temps, en continu, il y aura projection de petits films qui durent 2-3 minutes sur justement qu'est-ce que c'est qu'un représentant des usagers, qu'est-ce que c'est que les directives anticipées, et ainsi de suite. Voilà, ce sont des films qui sont faits par France Asso Santé pour un peu vulgariser toutes ces notions. Voilà. Et il y aura un moment particulier le vendredi, puisque nous aurons Madame Amel Djioui, qui est la déléguée régionale départementale de France Assos Santé, et qui viendra passer la journée avec nous et qui pourra répondre à encore plus de questions. Voilà.
Elle-même est médecin ou...
Non, pas du tout. Elle est, c'est quelqu'un qui est... j'avoue que je ne connais pas son parcours, mais c'est quelqu'un qui, justement, organise les rencontres, organise les réunions, nous transmet tous les nouveaux textes et qui au niveau... Il y a un représentant au niveau de chaque département dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc... ce sont les gens qui sont chargés de coordonner, d'organiser des réunions et voilà, de nous fournir la documentation pour ces journées européennes. Alors, c'est les journées européennes des droits en santé. Voilà.
Comment se passe votre mission tout au long de l'année? Est-ce que vous avez un moyen d'action au niveau de visiter, par exemple, les lieux de l'hôpital, d'aller à la communication auprès des usagers présents à ce moment-là? Vous prenez la température, en quelque sorte, aussi?
Tout à fait, tout à fait. Alors, déjà, nous tenons une permanence tous les mercredis, de 14h à 16h, à la maison des usagers. Nous avons un mail, une adresse mail, que les gens commencent à connaître parce qu'on reçoit beaucoup de mails. Je peux la donner, c'est ru@ch-di.fr. Et nous avons dans le hall d'accueil, puisque la maison des usagers est dans le hall d'accueil, très facile d'accès, nous avons une boîte aux lettres où de temps en temps nous trouvons des courriers de gens qui n'ont pas pu passer pendant la permanence. Ça, c'est pour les usagers. Au niveau des personnels, nous faisons régulièrement des visites dans les services, ce qui nous permet aussi de rencontrer les patients qui sont là. Et puis à 10, c'est un peu particulier parce qu'il y a à la fois hôpital et EHPAD, donc on s'occupe des deux. Et en tant que représentant des usagers, nous sommes aussi présent au Conseil de vie sociale, qui est l'instance qui permet aux résidents de l'EHPAD de faire valoir leurs droits. Voilà.
Je reviens un peu sur mes questions que je vous avais posées tout à l'heure. Est-ce que vous avez trouvé un regain d'activité par rapport à votre statut et celui des représentants et des usagers par rapport aux réformes, par rapport aussi au Covid? Est-ce qu'il y a eu des problématiques auxquelles vous avez dû remédier ou donner votre avis?
Alors, tout à fait, par exemple, pour prendre le Covid, la période de confinement, à Die, comme dans tous les établissements de santé, il y avait réunion de cellules de crise. Alors, nous avons toujours été destinataires des comptes rendus, ce qui nous a permis, nous, de donner notre avis quelquefois et surtout de faire remonter le mal-être, je vais dire, des familles qui ne pouvaient plus rencontrer les résidents. Et ça a permis, on a obtenu par exemple le fait qu'il y ait des tablettes mises à disposition pour communiquer par Skype. Je fais un peu de pub pour avec les familles. Voilà, on a toujours été en relation. Et oui, c'est vrai que de plus en plus... Les droits sont toujours mis en avant. Est-ce qu'on respecte les droits? Est-ce qu'on respecte la qualité des soins? Et on tient compte de notre avis. Et je pense que ça ira de plus en plus dans ce sens. Il n'y a qu'à voir les réformes qui sont proposées pour les EHPAD, par exemple. Là, je déborde un petit peu, mais il y a des nouveaux décrets qui vont être mis en route au 1er janvier 2023 avec une nouvelle représentation. On s'est aperçu que il y avait des failles, quoi. Alors juste un petit mot pour ajouter, c'est que nous participons, l'hôpital de Die, fin mai, est directement concerné par la certification. Donc je dois dire qu'il y a eu un moment où c'était un peu tangent. Hein. À la dernière certification, tout le monde s'est bien retroussé les manches. Et donc nous sommes passés en catégorie C, en catégorie B, pardon. Ce qui veut dire que, bon, si on est un CHU, on est en catégorie A. Mais pour nous, B, c'est le maximum. Et la certification va avoir lieu là, fin mai, début juin, pendant une semaine. Et tout le monde s'y prépare. Et là encore, les représentants des usagers, s'ils ne se faisaient pas avant, sont directement impliqués. Nous suivons les patients. Il y a ce qu'on appelle le parcours patient. On prend un patient de son entrée jusqu'à sa sortie, voir ce qui. Ben là, nous accompagnons les médecins, nous accompagnons les soignants et les certificateurs vont nous consulter sur ce sujet.
Devant moi, j'ai une petite série de fascicules édités par France Asso Santé à l'adresse des usagers. Il y a des titres comme « La personne de confiance ». Alors, qu'est-ce que ça englobe, cette notion de personne de confiance ?
Alors, la personne de confiance, c'est, pour faire simple, on va dire, c'est la personne qui peut prendre le relais si, à un moment, vous n'êtes plus en état de dire ce que vous voulez. Et donc, c'est elle qui va demander, par exemple, qui va vérifier que si vous avez rédigé vos directives anticipées, qu'elles sont bien suivies à la lettre. Donc, on essaye de sensibiliser, et d'ailleurs, on va faire un travail là-dessus, les gens. Alors, souvent, on nous dit « Oh, mais non !» Alors, ou non, si je fais mes directives, ça va me porter malheur. Bon, ben voilà, on n'est pour rien. Ou alors non, je suis trop jeune pour faire ça. Mais on ne sait jamais, hein, un accident, c'est tellement vite arrivé. Et le fait qu'on ait à notre disposition tous ces documents qui vont permettre aux médecins de prendre les bonnes décisions et puis de pouvoir transmettre ses volontés par un intermédiaire, c'est très important.
La lutte contre la douleur en est un autre fascicule. Qu'est-ce que ça laisse penser, justement, la notion de douleur dans le milieu hospitalier ? Est-ce qu'il y a vraiment une réelle considération de ce fait ?
Oui, oui.
Est-il suffisant ?
Alors, oui, je pense, parce que là, on s'aperçoit que systématiquement, maintenant, on vous demande d'évaluer votre douleur. Il y a une échelle, on vous demande entre 0 et 10. Et ça, c'est pris en compte. On le remarque dans tous les services. Moi-même, bon, j'ai dû être hospitalisé. J'ai remarqué que c'était fait. Là, je crois que ça y est. C'est bien ancré dans la façon de faire.
Un autre fascicule, le dossier médical. Alors ça, c'est aussi assez particulier pour tous les usagers et même pour tout, assuré social. Comment est géré le dossier médical d'un individu ? Par qui est-il détenu ? Et comment est-il ensuite mis à la connaissance d'autres médecins, par exemple ?
Alors, il y a en ce moment mis en place ce qu'on appelle le dossier médical partagé. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez établir et donner l'autorisation, ce qui veut dire que les médications qui vous sont prescrites et tout ça peuvent être suivies sur votre dossier qui est numérisé, c'est avec la carte vitale, et de façon à ce que, quand vous changez de service, ben, le médecin n'a pas à tout refaire. Et donc ce dossier est important. Et puis il y a une autre notion, on est en train de travailler dessus aussi, c'est au sein du groupement hospitalier. J'en parlais au début. Par exemple, nous n'avons pas, comme dans beaucoup d'établissements, tous les services à Die, ce qui fait que vous pouvez très bien être hospitalisé à Die, être obligé d'être transféré à Valence ou à Romans pour d'autres examens ou d'autres soins. Et là aussi se met en place, grâce à l'informatique, un suivi, ce qui fait que on n'est pas obligé de tout refaire chaque fois qu'on change de service. Voilà.
Il y a l'accès à la prévention pour tous aussi. Alors ça, ce sont des propositions qui permettent quoi, notamment auprès des assurés sociaux ou de personnes voulant être soignées ?
Alors là, c'est plutôt le service de la PASS, donc l'accès aux soins pour tous. Il y a un service à DI, donc qui est... J'avoue que je n'ai pas les horaires là, mais les assistants sociaux s'en occupent. Et vous, voilà. C'est le moyen de prendre en charge toute personne, quelle qu'elle soit, pour, si elle a besoin d'être soignée.
Sinon, vous disiez être en permanence tous les mercredis hein, au centre oui. hospitalier, à l'entrée. Est-ce que vous organisez parfois aussi, au-delà des murs de l'hôpital, des rencontres ou aller aussi au-devant de personnes qui sont peut-être éloignées du territoire ?
Alors, on participe, on est membre du contrat local de santé. Donc on participe aux réunions et on participe aussi beaucoup à des réunions, à des instances au niveau de l'espace social du DIWA. Et en particulier, nous sommes membres du réseau vieillesse, donc où on se réunit. Et là justement en ce moment, on est en train d'essayer de mettre au point des rencontres avec les personnes pour essayer de connaître leurs besoins, voilà.
Pour ces journées, sont cités aussi les partenaires des associations qui sont agréées oui. au sein de l'établissement. Est-ce qu'on en connaît, à part votre France Asso Santé, quelles sont les autres associations qui opèrent au sein du centre hospitalier ?
Alors, il y a une permanence qui est tenue par l'association des petits frères des pauvres. Je crois que c'est le troisième vendredi de chaque mois. Et puis, à Adi, nous avons la chance d'avoir une association qui fait énormément de choses. C'est l'association Apache, qui travaille surtout au niveau de l'EHPAD. Mais bon, je n'ai pas pensé à vous amener, mais je pouvais le transmettre, le programme des animations. Il y a des animations... Alors, ça se fait en collaboration... avec Trajet Spectacle, avec le musée, avec les Amis des Arts, avec le théâtre. Donc voilà, tout le monde participe. Il y a des promenades en Joëlette. Toutes les semaines, il y a quelque chose. Voilà. Et le fait d'avoir créé une maison des usagers permet d'établir des conventions et d'aller beaucoup plus vite, parce qu'avant, il fallait que ça passe par la direction. Ça prenait du temps. Là, on va beaucoup plus vite.
Ça, c'est peut-être une parenthèse. Est-ce que le café mortel, ça vous dit quelque chose ?
Oui, tout à fait.
On peut en parler ? Est-ce que ça serait quelque chose c'est domaine ?
C'est autre chose.
Voilà. Bon, j'écarte. Hein, parce que je crois qu'ils organisent rendez-vous bientôt.
Oui,
là.
Oui, je suis au courant. Mais on n'est pas dans le circuit, vous voulez dire.
Se tenir au fait, justement, de votre activité. Est-ce qu'il y a un site internet où il y a un moyen d'écrire ou de lire vos activités ou des comptes rendus d'activités ?
Alors, déjà, il y a le site de France Asso Santé, hein, ce qui est vraiment accessible à tout le monde. Vous avez tout. Vous avez même les modèles de lettres si vous voulez faire des demandes. Voilà. Par exemple, pour son dossier médical, comment demander à la direction vous avez un modèle de lettres. Donc, voilà. Et puis sinon, on essaye de temps en temps de faire paraître un article dans le journal de Die, qui est beaucoup lu. Donc, voilà. On a fait dernièrement, on a fait un article justement pour inciter, je profite de l'occasion pour le dire, pour inciter les gens à remplir les questionnaires de sortie, les questionnaires de satisfaction. C'est vrai que on a tous autre chose à penser quand on sort, mais on a le temps de le remplir et de le rendre même quelques jours après. Généralement, pour les hospitalisations longues, on reçoit, si on a donné son adresse internet, un questionnaire. Donc, l'intérêt, c'est que dans les certifications, dans le classement des hôpitaux, le nombre de réponses qui permet de calculer le taux de satisfaction est pris en compte. Voilà. Et malheureusement, c'est un petit établissement, donc ça explique aussi, mais on a peu de réponses et c'est dommage. Parce que c'est ce qu'on dit à tout le monde. Parce que quand on rencontre les gens dans les services, c'est arrivé hier, hein, parce qu'en plus on avait un stagiaire qui venait et qu'on a présenté. Les gens vous disent « Ah non, je suis content, je mange bien ou on s'occupe bien de moi ». Mais ils ne le disent pas. Ça, c'est un peu, on va dire, le défaut français. On ne s'exprime que quand on veut dire que quelque chose ne va pas. Et on oublie de dire quand ça va bien. Donc, moi, si j'ai une demande à formuler, si vous êtes allé à l'hôpital, si vous avez trouvé que vous avez été bien soigné, qu'on s'est bien occupé de vous, eh bien, dites-le. Et pour le dire, ben, vous avez le questionnaire de satisfaction.
Et puis, il y a aussi cette problématique de l'hôpital, hein, proprement dit. Champ-Queyras, Champ-Marge, un sujet de discorde hein, local. Vous, en tant qu'acteur au sein de cette association et puis de la commission de surveillance, de quel œil voyez-vous cette idée et qu'est-ce qui vous semble plus judicieux à vos yeux?
Alors, je pourrais faire... Pour avoir joué au rugby dans mon jeune âge, je pourrais faire comme un rugbyman et botter en touche, mais non. Non, nous, on a considéré en tant que représentants des usagers qu'on était là pour défendre les droits et la qualité des soins. Donc on a participé aux instances, on a donné notre avis sur le choix du terrain et on a travaillé avec tous les membres de la communauté hospitalière à mettre en place le plan du futur hôpital, les besoins en mètres carrés, en nombre de chambres et tout ça. Ça, c'est fait, ça a été transmis à la mairie et à la communauté de communes. Alors, si vous me demandez, je vais pas donner mon avis en tant que RU, je vais donner en tant que citoyen. C'est malheureux d'aller enclaver un établissement là-bas à Champ-Queyras avec tous les problèmes que ça pose, être obligé de construire des étages alors qu'on pouvait avoir un bâtiment de plein pied pour nos personnes âgées à l'EHPAD. Et puis, je ne sais pas ce que ça va donner avec l'hélicoptère. En fait, on est en plein brouillard, quoi, on va dire.
D'ailleurs, les EHPAD, comme vous le disiez, c'est un petit peu hors de votre compétence. Est-ce que, justement, ceux qui existent à l'heure actuelle sur dit, sont-ils conformes ou il y a beaucoup de...
Non, alors justement, c'est le bâtiment est très ancien. Donc, dans le futur projet, les chambres seront individuelles. Alors là, au maximum, les personnels essayent de mettre les résidents seuls dans les chambres, mais bon, c'est pas toujours possible. Et voilà, je vous ai parlé de climatiseurs qu'on a obtenus parce que les bâtiments ne permettent pas, l'été, il fait une chaleur pas possible, donc on a essayé de compenser un petit peu, mais voilà. Et donc, je dois dire que les personnels font avec les moyens du bord et d'après, je vous dis, encore hier, on a fait une enquête, les gens sont satisfaits. Donc avec les moyens à disposition, je vais dire que le maximum est fait. Voilà.
L'émission se termine et donc je rappelle aux auditeurs ces journées européennes en santé qui s'organisent du 16 au 20 mai à l'hôpital de Die. Vous y serez présent en tant que structure des représentants des usagers. Écoutez, quoi dire de plus? Si, on peut peut-être indiquer le site internet pour finir aussi de... de cette de association.
Oui, et j'ai oublié,
oui.
Vous me demandiez comment se renseigner. L'hôpital a un site, il suffit d'aller sur le site de l'hôpital, vous aurez tous les renseignements sur les services, sur les représentants des usagers, sur la prise de rendez-vous, enfin voilà. Et France Asso Santé, bah, si vous tapez sur Internet France Asso Santé, il n'y a pas de problème, vous tombez dessus. Voilà.
Eh bien... Daniel Rassa, je vous remercie d'être venu sur RDWA pour nous parler donc de ces journées européennes en santé. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci de m'avoir reçu.
Au revoir.
Au revoir.